On va reprendre notre périple dans la première épître de Jean. On va reprendre les versets 7 et 13 du chapitre 4. On va encore parler d'amour, hein, je suis désolé, il parle de ça. Bon, voilà. Ne me dites pas que ça vous rase, hein, parce que ce serait vraiment inquiétant si parler d'amour, ça vous posait un problème. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Une histoire concernant l'apôtre Jean est rapportée par Jérôme, un père de l'Église du 4e siècle, si je ne me trompe pas, raconte qu'à la fin de sa vie, Jean devait être porté pour participer aux rencontres de l'église d'Éphèse dont il était un des responsables et qu'il ne pouvait quasi plus parler. Et sa parole étant difficile, il se contentait, si je puis dire, de répéter encore et encore « Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres ». Alors certains frères, un peu lassés par cette litanie, parce qu'il se répétait, lui firent la remarque justement qu'il répétait toujours la même chose. Ce à quoi Jean aurait répliqué, c'est le commandement du Seigneur, et s'il était le seul qu'on observât, cela suffirait. Saint Augustin lui fait écho au travers de ces lignes devenues célèbres, et qui résument bien les choses, me semble-t-il. Une fois pour toutes, il t'est imposé un court précepte, un court commandement, si vous préférez. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Qu'il y ait au fond de toi la racine de l'amour, puisque d'une telle racine ne peut germer que du bien. C'est aussi un très bon résumé de la vie chrétienne, je trouve. Je vais reprendre les versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous n'avons pas aimé les premiers, car c'est l'amour de Dieu qui est le premier. Alors ça veut dire une chose très simple, mais terriblement importante. Celui qui aime le fait parce qu'il a d'abord connu l'amour de Dieu pour lui et c'est de cet amour qu'il a été engendré. Rappelez-vous ce que Jean, dans son évangile, cette fois-ci, dit, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est cet amour-là qui donne la vie, qui nous donne la vie et la capacité d'aimer. De là le vocable employé par Jean pour s'adresser à ses frères et sœurs. Bien-aimés, alors ils sont bien-aimés de Jean, ça, il faut peut-être l'espérer, mais ils sont surtout et d'abord bien-aimés de Dieu. Ils s'adressent donc à des hommes et des femmes qui connaissent l'amour de Dieu pour eux, et c'est parce qu'ils se savent aimés de lui qu'ils deviennent capables d'aimer à leur tour. Nous voilà donc face à une réalité de base, une réalité qui est inscrite, oserais-je dire, dans notre ADN, dans notre réalité humaine, nous aimons parce que nous avons été aimés. Nous apprenons ce qu'est l'amour. On va occulter Dieu deux secondes. Excuse-moi, Seigneur. Nous apprenons ce qu'est l'amour au travers des gens supposés nous aimer. À commencer, bien entendu, par nos parents, par exemple. Ce sont les premiers êtres supposément rempli d'amour pour nous. Et dès lors, s'il nous aime, nous les aimons parce qu'il nous aime. Avec toutes les perturbations qu'un amour déficient ou malade peut engendrer, aucun de nos parents, à ma connaissance, n'était parfait dans son amour, comme les dieux, bien entendu. On apprend donc ce qu'est l'amour par l'amour que l'on nous porte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour de Dieu pour nous est plus grand que l'amour que l'on nous porte au sein de nos relations humaines. C'est tout le sens de paroles telles que celle-ci, il y en a bien d'autres. J'ai pris le psaume 27, verset 10. « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel, à savoir Dieu, m'accueillera. » Alors ça veut dire une chose très simple. L'amour de Dieu pour nous est plus grand que celui de nos parents, fussent-ils animés d'un profond et véritable amour pour nous. Plus grand que celui de notre conjoint, plus grand que celui de nos amis, plus grand que l'amour que nos enfants nous portent. Alors tous ces amours-là que je viens de citer procèdent de l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu est amour que tous les êtres humains sont capables d'amour. Ça fait partie de l'image de Dieu en l'homme, en tout cas à mon avis. Et toutes ces qualités d'amour, pour être inférieures à celles de Dieu, n'existeraient pas si Dieu n'était pas amour. Je vais le dire autrement. Si Dieu n'est pas amour, l'amour n'existerait pas entre nous. Il n'y aurait pas de relation d'amour entre les êtres humains, aussi déficiente soit-elle. On peut donc dire que réussir sa vie ici-bas consiste tout simplement à connaître l'amour de Dieu et à vivre de cet amour. C'est ce que Jean nous dit, me semble-t-il, avec énormément de pudeur. C'est donc parce qu'il a fait l'expérience d'être aimé d'un amour inconditionnel et infini qui le conduira dans la réalité éternelle du royaume que le chrétien est en mesure d'aimer à son tour. Les chrétiens sont des hommes et des femmes aimés par Dieu d'un amour absolu et qui sont prioritairement appelés à connaître et à croire à cet amour qui s'est manifesté dans le Fils. C'est ce que Jean dit. C'est ici qu'il faut reprendre le verset de Jean, de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » C'est donc Dieu lui-même qui enseigne ce qu'est l'amour. C'est lui qui peut faire naître en nous cet amour. Alors je pense que ce verset, même si tous les chrétiens du monde ne le savent pas le situer dans la Bible, et je pense même au-delà des chrétiens, je pense que tout le monde connaît un peu quelque part, d'une manière ou d'une autre, ce verset qui dit que Dieu est amour. Mais l'on pourrait néanmoins en douter. Les hommes en doutent, d'ailleurs, et ne s'en cachent pas. Si Dieu était amour, il ne se passerait pas tout ça. On entend ça un nombre incalculable de fois. Alors, où est la preuve première et ultime qui peut venir à bout de tous les doutes en la matière, lorsque, même pour un enfant de Dieu, l'épreuve crée en lui un cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri que même Jésus lui-même poussera sur la croix. C'est le cri de Jésus sur la croix et celui de millions d'êtres humains, parfois même de fils et de filles de Dieu, qui, assaillis par la fournaise de la maladie, de la persécution ou de l'épreuve, ne ressentent plus cet amour. Commence à en douter et lève les yeux vers le ciel en espérant qu'une trace de cet amour finira par réchauffer à nouveau leur âme. Cette preuve, nous dit Jean, c'est la venue sur cette terre du Fils de Dieu. C'est toujours vers ça qu'il faut retourner, en particulier quand on doute. La foi en sa venue et ce qu'il a accompli pour nous, par amour, est notre rempart, notre ancre, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Cette ancre s'enracine au-delà du voile, dit-il, ce fameux voile qui se trouvait dans le temple, en la présence même de Dieu notre Père, qui en est la source. C'est ici qu'il faut aussi citer Paul, ce ne serait pas juste de ne pas le citer, puis ça vous permettra de remarquer quand même en passant que, et ça n'étonnera personne, que Jean et Paul sont raccords sur ce coup-là. Nous voici, Mais voici, pardon, comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc ce que Jean dit, ce que Paul dit, ce que tous les écrivains bibliques disent, c'est que Dieu est amour et cette vérité se révèle fondamentalement et surtout dans l'acte gratuit et libre qui lui fait choisir d'envoyer son Fils en ce monde, se livrant ainsi sans la moindre réserve aux hommes. Et Jean le dit en des mots qui, par leur précision et leur clarté, n'ont en fait pas besoin de commentaires, même si je vais commenter. Je suis un peu payé pour ça. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Je reprends ce passage. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais nous ne l'aimions pas avant de le connaître, bien sûr, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors, ce que Jean dit, en fait, implique que le dynamisme de l'amour a une trajectoire bien précise. L'amour vient de Dieu et nous rejoint, nous les hommes, et pas l'inverse. Nous ne sommes pas capables d'amour envers Dieu. C'est parce qu'il nous aime que nous sommes capables de répondre à cet amour. Et cela nous a été dit par le Fils, l'envoyé de Dieu, qui a été fait expiation pour les péchés, les nôtres et ceux du monde entier. Il les a couverts à la croix. De manière à ce que le Père, ou Dieu dans sa personne trinitaire, ne le voit plus. Jésus s'est fait notre intercesseur auprès du Père, celui qui se met entre la justice de Dieu et l'homme, et pas en parole seulement, comme les prophètes, mais jusqu'à la mort, jusqu'au sacrifice de lui-même, livrant sa vie pour nous, jusqu'à accueillir la mort pour nous et pour nous verser ce sang qui purifie des péchés. Le sacrifice de Jésus à la croix manifeste cette incroyable et immense vérité, à peine effleurée dans le Cantique des Cantiques sous cette forme « L'amour est fort comme la mort ». En mourant sur la croix, le Fils de Dieu manifestait dans toute sa clarté cette merveilleuse vérité qu'aucun homme mortel n'aurait même osé imaginer et que le dimanche de Pâques révélera dans toute sa clarté. L'amour est plus fort que la mort. À croire ça, je le rappelle, ça fait partie de notre foi. Et cette dimension fondamentale de celle-ci s'appuie sur la mort de notre Seigneur, une mort consentie par amour pour tous les hommes, et sur sa résurrection, preuve éclatante que l'amour a bel et bien triomphé de celle, la mort en l'occurrence, que personne ne pouvait vaincre. Et pour ceux qui peut-être penseraient que ce fut facile pour le Père d'offrir son Fils en rançon pour nous, car Dieu n'est pas un homme qui souffre, ou que Dieu n'est pas un homme pour souffrir, on a entendu ça, même dans la bouche de certains théologiens. Rappelons-nous encore une fois que quiconque aime souffre, et que dès lors Dieu sait ce que c'est que de perdre un enfant. Il le savait déjà par procuration, en quelque sorte, en voyant mourir ses enfants de la terre. Oui, mais Jésus, pour être venu sur la terre, n'en était pas moins du ciel. Dans sa paternité trinitaire, Dieu ne savait pas avant la croix ce que c'était que perdre un être, fût-ce à moitié, car il est vrai que c'est en humanité que Jésus est mort. La douleur n'en a pas été moins grande, car plus l'amour est immense, plus la douleur est intense. Le cri du Fils sur la croix cherchant son Dieu, car le péché dérobe le Père à sa perception dans les limites fixées par son humanité, manifeste que lui, Jésus, s'est bel et bien cru seul au monde, lui qui était le seul à avoir Dieu pour Père. En abandonnant son Fils, le Père s'abandonne aussi lui-même. En livrant son Fils, le Père se livre aussi, cependant pas de la même façon. Car Jésus subit de mourir abandonné. Il ne souffre pas la mort même, car on ne peut pas souffrir la mort, la souffrance supposant la vie. Mais le père qui l'abandonne et le livre souffre la mort du fils dans la douleur infinie de son amour. La douleur du père est ainsi du même poids que la mort du fils. À la perte du père par le fils correspond la perte du fils par le père. Jürgen Moltmann va encore plus loin et j'ose à peine le dire. Voilà ce qu'il dit. Si Dieu s'est constitué le Père de Jésus-Christ, alors dans la mort du Fils, il souffre aussi la mort de son être paternel. Sur la croix, le Fils était seul, alors qu'au ciel, le Père étreignait son Fils et le mouillait de ses larmes. Je n'irai pas plus loin. En tout cas, pas sur ce sujet. J'ai déjà été trop loin, sans doute. Comment parler de l'inimaginable ? De l'amour du Père pour son Fils ? Sans l'abîmer, sans le réduire, sans le trahir. Qu'il nous suffise de savoir qu'il nous aime du même amour grâce à Jésus. Et qu'on se souvienne simplement qu'à la croix a eu lieu ce qu'Abraham n'eut pas à faire à son fils Isaac. Comprenez à présent pourquoi on ne peut pas comprendre la Trinité de Dieu si on ne comprend pas son amour. On entre en Trinité et elle devient vraie dans notre vie quotidienne. Elle ne devient vraie dans notre vie quotidienne. Elle ne change quelque chose à notre vie que si l'on ouvre, si l'on s'ouvre à l'amour. C'est là que le philosophe Emmanuel Kant et bien des théologiens à sa suite se trompent, à mon sens, en affirmant du dogme de la Trinité pris à la lettre, on ne saurait absolument rien tirer pour la pratique. Une telle croyance, parce qu'elle ne forme pas un homme meilleur, ni n'en prouve l'existence, ne fait pas du tout partie de la religion. Autrement dit, je traduis, puisque la Trinité ne change rien pratiquement, qu'on ne peut rien en faire dans la pratique, elle ne sert à rien, on ne devrait même plus en parler. Alors Kant a raison, car il fait cette réflexion en rapport avec la pratique de l'Église de son temps, et peut-être même d'aujourd'hui, pour qui la Trinité ne sort jamais des cantiques et de la liturgie. Mais fondamentalement, il a tort, puisque la Trinité porte en son sein l'amour dont le salut de l'homme dépend et la possibilité pour la communauté chrétienne d'incarner l'être de Dieu en aimant comme lui. C'est ici qu'il faut glisser cette remarque du théologien catholique Héribert Mullen. Sa maman de lui en vouloir pour l'appeler Héribert. Ce ne sont pas les rares formules trinitaires du Nouveau Testament, mais le témoignage global de la croix, qui est le fondement scripturaire de la foi chrétienne au Dieu Trinité. Et l'expression la plus concise de la Trinité est l'acte divin de la croix, dans lequel le Père laisse le Fils s'offrir par l'Esprit. Ce n'est pas pour rien, ou par hasard, vous savez que Jean utilise le vocable « fils unique » pour parler de Jésus. Il est le seul à employer ce vocable, que ce soit dans sa première lettre ou dans son évangile. Fils unique, c'est monogénès dans le grec. Autrement dit, fils d'un genre unique, seul fils engendré, seul fils de même nature. C'est donc le même mot qui est utilisé par Jean quand il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils ». Alors on peut peut-être considérer la chose banale, puisque nous avons aussi des enfants. N'avoir qu'un seul enfant aujourd'hui est chose courante, c'est un choix. Mes amis, mais dans l'Antiquité, ça n'a rien d'anecdotique, n'avoir qu'un seul enfant. À une époque où la mortalité enfantine avant l'âge de 10 ans est proche de 85%, n'avoir qu'un enfant signifie soit que c'est le seul qu'il nous reste, parce que justement tous les autres sont déjà morts, soit qu'on n'a pu en avoir qu'un seul. Dans des temps où la stérilité est considérée comme une punition des dieux, n'avoir qu'un enfant, c'est déjà merveilleux. Mais c'est surtout terriblement dangereux. Parce que le risque de le perdre est énorme. Et la tristesse, si on le perd, immense. Et pourtant, Jean nous dit que Dieu n'a qu'un enfant unique. Jésus est fils unique. Le Père n'a engendré qu'un fils, un seul. Et non seulement il n'en a qu'un, mais il le livre volontairement à la mort pour nous. Il s'inflige à lui et à son fils ce que tous les parents d'un enfant unique redoutent le plus au monde. Les lecteurs de Jean ont dû saisir toute la profondeur de ce qu'il disait. Alors que nous, vivant dans une société différente, où la mortalité enfantine est quasi passée dans les annales de l'histoire, nous avons, je pense, plus de mal à intégrer ce que l'apôtre nous dit. Ayant posé toutes ces bases, oui, ce ne sont que des bases, hein, ça fait peur, hein. L'auteur peut à présent répéter son exhortation initiale en mettant en avant que l'amour, avant d'être un commandement, une obligation, et surtout un don que Dieu nous offre. On prend le verset 11. Bien-aimé de Dieu, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Quelle réponse cohérente pourrait-on avoir face à cet amour qu'il nous donne, à part nous aimer les uns les autres? Et il va, Jean, nous pousser encore plus loin dans notre méditation. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Ce « personne n'a jamais vu Dieu », ça tombe un peu comme une sorte de cheveu dans la soupe, excusez-moi de le dire. Moi, quand je lis ce texte, j'étais voir dans le grec, je dis « mais qu'est-ce que ça fait ?» Excusez-moi, hein, mais qu'est-ce que ça fait là? Ah, mais mes amis, ça répond en écho à comment est-ce qu'on peut voir Dieu, un Dieu qu'on ne peut pas voir. Personne, nous le savons, n'a jamais pu contempler Dieu. Ici-bas, personne n'a jamais pu le voir tel qu'il est. Moïse l'a demandé, fais-moi voir ta gloire, montre-toi. Et Dieu a dit non, non. Je t'aime trop pour ça, je te détruirais si tu me voyais ma gloire. Mais il l'a demandé quand même. Seul le Fils qui nous raconte Dieu et nous l'explique permet de voir le Père. C'est ce qu'il dira à un de ses disciples. Ça fait si longtemps que tu es avec moi et tu n'as toujours pas compris. Celui qui m'a vu a vu le Père, mais l'humanité de Jésus voile quand même Dieu tel qu'il est. En fait, la seule expérience authentique qu'un être humain peut faire sur cette terre, en rapport avec Dieu, la seule façon de lui faire voir Dieu, c'est à travers l'amour que vous lui portez. Là, il peut commencer à voir Dieu tel qu'il est. Imparfaitement encore ici-bas, mais il commence à voir Dieu tel qu'il est. Il faut dépouiller notre théologie, notre vision de Dieu, de tout ce qui ne part pas de son amour. L'expérience de Dieu ne se vit qu'au travers d'un amour authentique, gratuit et vrai. À l'exemple de celui dont le Christ nous a aimés et nous aime. Allez jusque-là. La croix, c'est une parabole, hein. Sur la croix, Jésus, à part audible pour son Père, ce qu'il dit, personne ne l'entend. Ça nous est rapporté par Jean, entre autres, et par les synoptiques, mais les évangiles synoptiques. Mais pour tous les autres qui n'écoutaient pas, parce qu'il y a du bruit, qu'ils se réjouissaient, ben voilà. Personne n'a rien entendu, mais certains ont vu qui était Dieu à la croix. Vous n'y étiez pas. Vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui. Comment ça se fait, ça? Qu'est-ce que vous avez compris de Dieu pour devenir enfant de Dieu, vous croyez? Ben c'est qu'il vous aime. Non? Si on était pentecôtistes, c'est là qu'il y aurait un « Amen !» Mais comme nous ne le sommes pas, ils ont quand même de la chance, les pentecôtistes, je trouve. Donc c'est comme ça que l'amour de Dieu, qui s'est abaissé au plus profond de notre cœur en la personne de l'Esprit-Saint, grandit et trouve sa plénitude. La présence de l'Esprit en nous, dans notre cœur, nous permet d'espérer, de pouvoir exprimer l'amour même de Dieu envers ce monde et les uns envers les autres. L'illusion de pouvoir connaître Dieu face à face sur cette terre étant exclue, vous l'aurez bien compris, les chrétiens que nous sommes constatent sa présence en eux grâce à l'amour qu'ils vivent au sein de leur communauté et que l'Esprit-Saint rend possible. Et je prends ce dernier pour conclure, je prends ce dernier verset, le verset 13, oui ça m'arrive, je suis fatigué, hein. C'est, quand un enfant est difficile, on dit qu'il est fatigué. Hein. Il n'y a pas de raison qu'à mon âge, on ne dise pas que quand je bafouille, je ne sois fatigué. Voilà, je suis fatigué. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et avec son esprit, il nous a donné son amour. Jean, vous l'aurez peut-être remarqué ou pas, il switch la personne de l'esprit avec l'amour. Ce que veut nous révéler l'Esprit dans nos vies, c'est que Dieu nous aime. On n'a besoin que de ça. Tous les jours. C'est la seule chose dont on a besoin. Tous les matins, en ouvrant les yeux, c'est « Merci Père, parce que tu m'aimes. Je ne le mérite pas, je suis nul, mais tu m'aimes. » Le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse surtout. Amen.